Bonjour à tous. La semaine dernière, Daniel nous a parlé de la lettre à Éphèse, première lettre décrite dans le livre de l'Apocalypse. Alors, interpellé par son message, je me suis penché tout simplement sur la deuxième. Il y en a sept. Deuxième lettre à l'église de Smyrne. On ne trouve que deux fois le terme Smyrne dans l'Apocalypse. N'existe pas ailleurs, enfin on ne le trouve nulle part ailleurs dans la Bible, donc il a fallu aller chercher ailleurs que dans la Bible de pour avoir des renseignements. Alors comme je l'ai déjà mentionné dans la précédente prédication sur l'Apocalypse, ce livre merveilleux qui clôture notre Bible est souvent délaissé. Parfois on lit les deux, trois premiers chapitres et après on en a un peu peur. Même les réformateurs doutaient de sa véracité pourtant. Il est quand même l'apothéose des 65 livres qui le précèdent. Il est la réponse à la Genèse, mais surtout, il est la révélation par excellence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à ouvrir ce livre dans l'Apocalypse. Nous lirons les trois premiers versets comme introduction, et puis on ira à la seconde église de Smyrne. Apocalypse 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Et nous allons au chapitre 2, verset 8. Chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous pencher sur ce texte et te demander ton esprit pour avoir ton message. Merci parce que toi, tu as été jusqu'au bout, tu nous as même révélé des choses qui doivent arriver, Seigneur. Seigneur, que nous puissions être à ton écoute, seulement à ton écoute, à toi, Seigneur. Mais qu'à toi revienne toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Évidemment, nous sommes au premier siècle et déjà il nous est dit, le temps est proche, il y a 2000 ans. Qu'est-ce que nous devons dire, nous, 2000 ans après? C'est encore plus proche. Certainement, nous interroger sur notre situation. Mais pour bien comprendre les écrits bibliques, il nous faut d'abord accepter que le texte ne nous appartient pas. Je m'explique. Et l'Apocalypse est d'abord adressé aux destinataires de son époque, avec une transposition vers les églises de tous les temps, évidemment. Mais c'est d'abord des lettres qui ont été réellement écrites à des églises réelles. C'est seulement au chapitre 3 que Jean est transporté au ciel. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Les destinataires, eux, ont trois choses à faire pour être heureux. Verset 3. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Lire, entendre et garder. On ne lit pas la Bible comme un roman, il nous faut aussi écouter le texte. Le garder, le pratiquer. Souvenez-vous de ce que vous devez avoir dans votre chambre haute, creusé sur une table, assis avec une lumière, et puis se reposer, creusé dans le texte. Si nous nous replaçons l'Apocalypse dans son contexte de l'époque, nous comprenons plus aisément les avertissements et les encouragements qui y sont donnés. Je sais que sur 4-5 versets, on n'a peut-être pas beaucoup à dire si on ne vous met qu'à ça. On a peur des 10 jours, de la persécution, etc. Mais depuis la mort de Jésus et sa résurrection, à l'époque, les empereurs romains se sont succédés, tous plus cruels et immoraux que les autres. Voilà, on parle de Néron, qui n'a pas entendu parler de Néron. Et le culte de l'empereur a pris vraiment une place inévitable. Les chrétiens sont donc aussi pourchassés et persécutés. On estime la datation de l'Apocalypse sous le règne de l'empereur Domitien, vous aurez interrogé la semaine prochaine, de 81 à 96, avec, après Jésus-Christ bien sûr, pour les raisons suivantes. Domitien se faisait appeler Curios, qui veut dire Seigneur en grec, et même il allait jusqu'à se dire Dieu. Il avait décrété un serment par le génie de l'empereur comme prière avant chaque action, surtout pour les juges. Alors il a bâti aussi un nouveau temple dédié au culte de l'empereur à Éphèse, dans la première église que nous avons citée. Et puis, il fait arrêter l'apôtre Jean et l'exil sur l'île de Patmos, d'où il écrira la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse elle-même. Donc Jean était très âgé quand il a écrit. Hein. Il était très jeune avec Jésus, mais il était très âgé quand il a écrit l'Apocalypse. Et si nous écoutons bien ce que nous lisons, nous découvrons d'abord le regard tendre de Jésus sur son Église, sur l'Église universelle de l'époque, l'Église connue à l'époque, et sur les Églises locales en particulier. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises, au pluriel. Il n'a pas marqué seulement aux 7 Églises, aux Églises, à toutes les Églises, aussi bien de l'époque que de tous les temps. Et il le répète 7 fois, pour 7 églises d'Asie mineure, une des plus grandes contrées et une des plus peuplées connues, estimation 150 000 habitants, 150 à 200 000 habitants, sur pas beaucoup de terrain, quoi. Hein, donc vous imaginez un peu la population. Et ce que Jésus dit par l'intermédiaire de l'ange de l'église, je connais. C'est un petit peu embêtant enfin, quand il dit je connais. Je sais ce que tu fais. Même derrière mon dos, je sais ce que tu fais. Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes, mais il sait de quoi notre Église est capable et comment elle réagit parfois à certaines situations. Il n'y a que cette Église citée, bien qu'il y en ait d'autres, et on lit dans Apocalypse 1, verset 10, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre » et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai, donc ces gens qui parlent, pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et ces 7 communautés sont dans les villes les plus importantes de l'époque. Éphèse et Smyrne étaient des ports où transitaient énormément de marchandises. Le cercle que formaient les 7 églises, cette cité, était comme la plaque tournante du commerce international. Comme on dirait la Belgique, la plaque tournante de... Hein, de ça. Ben oui, il n'y a rien changé. On a seulement déplacé les choses, quoi. Il faut aussi savoir que voir dans le symbolisme du chiffre 7, qui traverse évidemment tout le livre, 7 est le chiffre de la plénitude. Plus de 50 fois dans l'Apocalypse, et tenez-vous bien, 700 fois dans la Bible. Je vais peut-être vérifier, c'est quelqu'un qui va être compte pour moi. 7 jours de création, par exemple, hein, 7 paroles du Christ en croix, et puis, pardonnez, 77 fois, 7 fois, etc., 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 le chiffre 7 est partout. Mais dans le texte que nous venons de lire, Il nous décrit aussi un fils d'homme qui se trouve au milieu de 7 chandeliers. Jésus lui-même, dans les évangiles, se nomme le fils de l'homme. Souvenez ce verset, Luc 18:8, « Mais quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Jésus se trouve au milieu des 7 chandeliers, des 7 églises citées. Et Daniel nous a lu la semaine dernière la lettre à Éphèse. Voyons le chapitre 1. Écrit un ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Jésus est là, au cœur de nos églises. Il a le pouvoir de déplacer le chandelier. Savez-vous qu'il y a aussi un chandelier dans notre chambre haute? Il faut de la lumière. Nous avons besoin de la lumière du Saint-Esprit. Jésus est au milieu de nous. Il nous a précédés. Mais le but de l'Apocalypse, évidemment, n'est pas de décourager et de détruire les églises, mais dans le contexte de l'époque, elle est un encouragement à tenir le coup, à garder la lumière du chandelier allumé. Ce qu'on a bien besoin aujourd'hui encore. Hein. Les chrétiens de l'époque étaient tentés de renier leur foi ou de faire des compromis. On a parlé de la doctrine des Nicolaïtes, qui reviendra un peu plus loin aussi, citée la semaine dernière. À Éphèse, l'empereur Domitien fit ériger une statue 4 fois plus grande que sa nature. Il fit dicter une lettre aussi à ces jeunes gens qui débutaient de la sorte « Notre maître et notre Dieu ordonne ce qui suit ». C'est un empereur, c'est un homme. Et en 86, il se fait officiellement nommer le Seigneur Dieu. Très mauvais ce gars. Hein, vous comprendrez bien, évidemment, que les chrétiens de l'époque tremblaient et qu'ils devaient être découragés, surtout qu'avec l'expansion de l'Évangile, ils étaient très nombreux. Mais nous, quelle est notre situation? Sommes-nous dans le même cas? Pourtant, les lettres qui sont adressées portent non seulement des éloges, des exhortations et avertissements, mais aussi des reproches. Vous lirez le 7, il y a des reproches, sauf pour Smyrne et Philadelphie. Mais Smyrne, justement, notre deuxième lettre. Le messager qui partait d'Éphèse devait faire une soixantaine de kilomètres et arriver à la ville de Smyrne, qui s'appelait la gloire de l'Asie. Elle aimait s'appeler comme ça. Elle était, comme je l'ai dit, le port le plus important de l'Asie avec Éphèse. Smyrne, petit historique, a été créée selon la légende, par une Amazone qui lui aurait donné son nom vers 1000 ou 1200 avant Jésus-Christ. Et depuis, il a subi bien des attaques. En 624 avant Jésus-Christ, elle est saccagée et disparaît pendant plusieurs siècles et rebâtie 3 km plus loin. Elle lui a souffert de plusieurs tremblements de terre et en l'an 23 de notre ère, un des meurtriers de César vint s'y réfugier. Rome met à sac la ville pour le capturer. Tout est détruit. Donc elle garde une image de Gaza et on voit Smyrne. Et au cours des siècles, son nom se trouva bien justifié. Smyrne, tiré de myrrhe, qui veut dire souffrance. Ah, oui, j'ai appris quelque chose. La myrrhe. Petite parenthèse, la myrrhe est une espèce de gomme résine tirée de l'arbre à myrrhe, qui pour les Hébreux faisait partie de la composition de l'huile sacrée. La myrrhe était aussi utilisée comme remède médical ou pour embaumer. Mais étymologiquement, elle veut dire être amer. Alors, je me suis posé la question, le cadeau d'un des mages pour Jésus était-il pour lui annoncer une souffrance future? Peut-être. Mais la souffrance, elle est là. Mais revenons à Smyrne, la loyauté de l'empereur fait parler d'elle comme Smyrne la fidèle. Toute cette ville honore l'empereur. En 26, elle fait aussi ériger un temple à Tibère, empereur de l'époque, quand le culte de leur empereur devient obligatoire, elle l'impose à tous les citoyens. Imaginez ici maintenant quelqu'un qui se dit « Moi, je suis chef de Blény » et il érige une statue et tout le monde doit l'adorer pour rentrer à l'église. On n'en est pas loin de ce genre de truc. Hein. Dans certains pays, ça se fait. Hein. Je ne cite que la Corée du Nord, pour y aller, il y a une grande statue du monsieur là, et il faut l'adorer et dire des prières avant de pouvoir aller visiter le pays. Peu importe ta religion, de toute façon, l'empereur est le Seigneur Dieu. Les chrétiens, eux, ne furent pas persécutés pour leur religion ou leur pratique, mais juste parce qu'ils adoraient le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et pas l'autre Dieu. On a déjà vu ça aussi dans le livre de Daniel. Mais la ville est fière et veut être la meilleure en tout. Elle possède des écoles de sciences, de médecine, la splendeur du temple de Zeus, d'Aphrodite, d'Esculape, sont égales et contrastées avec les humbles lieux de réunion des chrétiens. Pourquoi tant de détails ? C'est pour vraiment comparer. Comparer que le chrétien n'était rien. Mais comparons avec notre contexte de notre temps à nous. Nos églises et les bâtiments de nos dirigeants mondiaux, les statues de certains dictateurs, les cultes dédiés à tout et n'importe quoi, le Seigneur Dieu argent, le Seigneur Dieu sexe, le Seigneur Dieu, nouveau là, intelligence artificielle, IA, le Seigneur climat, oh, voilà. Et alors les nouveaux grands de ce monde qui galvanisent même les chrétiens. Priez pour vos autorités, disait-il. Est-ce que vous pensez que les habitants des sept églises de l'Apocalypse étaient capables d'honorer leurs dirigeants comme ayant été instaurés par Dieu ? Une question délicate. Je crois que prions. Prions pour la conversion réelle de notre gouvernement ou de nos gouvernants mondiaux. Il est un fait que Dieu connaît tout. Et il nous le répète, je te connais par ton nom. Il sait tout. Mais quand je vois les manifestations avec des pancartes où le nom de puissants de ce monde, les plus riches, est inscrit en une seule parole, « Vive tel, votez pour moi !» Je n'ai pas cité le nom. Ne sommes-nous pas sur le culte de l'empereur par rapport au culte du Dieu unique ? Smyrne comme Bligny connaît les tribulations du monde et le Seigneur connaît notre pauvreté, bien que nous soyons riches. Je m'explique. La pauvreté de Smyrne était matérielle parce que les chrétiens étaient délaissés, persécutés. Ça ne peut peut-être pas vous plaire ce que je vais dire. La pauvreté de Bligny est le manque d'avenir, le manque de prière commune. Le manque de communion fraternelle, peut-être, le manque de notre premier amour, comme il nous a été redit la semaine dernière. Mais bien que riches, nous ne manquons de rien. En finances, en prédicateurs, en bâtiments, en nombre. À la taille du bâtiment, on est très nombreux. J'ai vu des églises où on pouvait mettre 400 personnes avec 18 personnes. C'est triste. Les dangers de Smyrne et sa souffrance venaient de l'extérieur, l'emprise et de l'Empire, mais aussi de l'intérieur, les Juifs. Les Juifs qui se disent Juifs et ne le sont pas. Ah, nous avons suffisamment parlé du culte de l'empereur, mais qu'en est-il de ces Juifs qui ne le sont pas et que Jésus qualifie de synagogue de Satan ? Depuis la destruction de Jérusalem et du Temple en 70, la migration des Juifs fut très importante et l'église de Smyrne est sans doute composée de Juifs qui se sont convertis au christianisme, considérés comme des apostats par les autres Juifs qui voulaient absolument maintenir toutes les traditions des pères et qui se considéraient comme les gardiens du peuple élu. C'est nous qui avons la vérité, étant une garantie de faveur divine. Mais les gardiens du peuple élu étant vraiment... La semaine dernière, dans la présidence, je vous parlais de l'église de Rome, coupée en deux dans ses mentalités, et Paul voulait les réunir dans la louange. Bien que nos églises se disent unies, l'église protestante unie de Belgique, nous sommes parfois en conflit interne, en conflit vis-à-vis de notre lecture de la Bible, en conflit quant à nos théologies. Nos théologies parfois reçues du passé, en conflit quant à l'avenir de nos communautés. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Oh, ça va aller ! La lecture de la lettre à Smyrne nous montre qu'elle va subir encore de la souffrance, que même le diable se déchaînera, mais que c'est Dieu qui est aux commandes. Ce que nous avons lu au verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » C'est Jésus lui-même qui dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie, la couronne de vie. Il nous a dit quelques-uns, persécution limitée, 10 jours, limité dans le temps. Ne crains pas. Avertissement et promesse de Jésus, sois fidèle jusqu'à la mort. Ah, ça c'est le pire, ça. Et pour la petite histoire, un jour on était moi en Italie pour un mariage, et le prêtre lit le passage où Christ est mort pour l'Église. Et l'Église, son épouse, il faisait le rapprochement entre le mariage et l'Église, et de demander aux hommes de l'assemblée. Qui est prêt à mourir pour sa femme par amour ? J'ai compris, même en italien. Personne n'a répondu. Les hommes mariés étaient très embêtés et les femmes très fâchées. Le premier amour avait disparu. Smyrne a souffert beaucoup en tant que ville, mais c'est chaque fois remise sur pied. Et un historien parle même d'elle comme le phénix qui renaît de ses cendres. On comprend mieux aussi pourquoi Jésus se présente comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie et qui promet la couronne de vie au vainqueur. Une image de la couronne de laurier, évidemment, remise au vainqueur des Jeux du Stade romain. En conclusion, l'église de Smyrne est, avec celle de Philadelphie, la seule à ne recevoir que des éloges. Ce qui explique en partie l'opposition à laquelle les chrétiens étaient soumis. Devenir chrétien était devenir hors la loi. À Smyrne, l'église était un lieu pour les héros. Dans une ville où l'orgueil des gens regardait de haut les humbles chrétiens, où la splendeur du culte de l'empereur et la calomnie et la méchanceté des juifs étaient monnaie courante, il y avait des chrétiens qui étaient fidèles jusqu'à la mort. Alors, que nous dit l'ange de l'église de Béni ? Je connais ce que tu passes comme tracas et maux. Je sais les discussions qui parfois coupent l'église en deux, mais reste fidèle. Tu seras vainqueur. Pour la gloire de notre ressuscité, notre Seigneur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et je vous laisse ce verset de Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô Dieu, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous remettre devant toi. Combien parfois nous sommes reflétés dans ce miroir qui est la parole de Dieu. Relève-nous, Seigneur. Merci parce que tu étais jusqu'au bout. Tu es le premier, tu es le dernier, mais tu es celui qui est passé de la mort à la vie pour nous donner la vie. Oh, que nous puissions avoir les yeux fixés sur toi et pas sur la souffrance qui pourrait nous entourer. Mais quand toute chose revient à toi, toute la gloire. Amen.